Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien envie de faire la sieste, comme toujours à cette heure-là. Alors, là où l'homme ne peut pas aller, qu'est-ce qu'il fait en général? Il envoie des machines, qui est le thème principal de cette édition des Utopiales. Alors, dans l'espace, d'abord, je pense que vous avez tous suivi récemment les aventures de la sonde Rosetta sur la comète Chury, qui est un des événements scientifiques les plus marquants, je pense, de ces dernières années, les plus relayés et les plus suivis par le grand public. On a marché sur la Lune, vous vous en souvenez? Non, en fait, la plupart d'entre nous n'étions même pas nés quand on a marché sur la Lune. C'était déjà il y a très longtemps. Pour l'étape suivante, on a préféré envoyer des machines sur Mars, les rovers. Et c'est eux qui nous gratifient de vision d'un monde qui est pour l'instant encore inaccessible à notre œil nu. À ce propos, je fais un peu de publicité pour un stand qui est juste derrière là, dans lequel vous pouvez aller sur Mars, en réalité virtuelle, avec des véritables images de Mars. C'est assez impressionnant. Donc, si vous voulez voir comment les machines nous amènent Mars chez nous, allez jeter un petit coup d'œil là-bas. À l'autre extrémité du spectre, on explore aussi notre espace corporel intérieur. C'est ce qu'un de nos intervenants fait en particulier, avec des machines. Alors, on peut penser d'abord aux machines de visualisation, radiologiques, échographiques, mais pourquoi pas aller plus loin, des machines invasives, pourquoi pas imaginer demain des robots, un peu comme les sondes spatiales qui iraient explorer notre intérieur et nous guérir in fine. Donc avec nos invités, on va se pencher un peu sur ces machines extraordinaires qui emmènent un peu de nous ailleurs. Alors on va faire l'intérieur du corps et l'espace, mais on peut peut-être même aussi imaginer d'autres endroits où l'homme a envoyé des machines. Alors pour nous parler de tout ça, on a quatre intervenants. Je vais commencer avec Elisa qui est à ma gauche, qui est ingénieure à la direction des lanceurs du CNES. Donc, tu travailles aujourd'hui sur le pilotage d'Ariane 5, mais tu as travaillé auparavant sur la propulsion elle-même et à des modes de propulsion avancés, voire futuristes. Donc si ton voisin, on y viendra tout à l'heure, dispose d'outils pour avancer ses recherches, c'est un peu grâce à toi qui envoie les machines, enfin grâce à toi et à tes collègues, qui envoyaient des machines loin dans l'espace. Tu as en outre participé à un livre qui s'appelle « Embarquement sur Mars », qui est un ouvrage qui détaille fort bien la vingtaine de défis qu'on a à relever pour un jour arriver sur la planète rouge. D'ailleurs, je le montrerai tout à l'heure discrètement au public. À ta gauche, Marc Sauvage, qui est astrophysicien au CEA à Saclay. Tu t'intéresses au milieu interstellaire, son émission infrarouge, sa composition chimique, et aussi aux galaxies naines, qui te rappellent sans doute les premières galaxies, c'est ça? Et même si tes sujets de recherche se situent au-delà de là où on envoie nos machines, tu utilises pour les étudier des machines, qui sont les satellites, qui sont envoyés dans l'espace. On peut citer les noms des satellites sur lesquels tu as travaillé, ISO, Herschel et le futur Euclide. À ta gauche, Laurent Genefort. Toi, tu explores tous ces espaces à la force de ton imagination, je dirais. T'es un romancier fort prolifique, principalement dans le genre du space opéra, c'est-à-dire de l'exploration spatiale, justement, à l'aide de machines qui, alors là, pour le coup, sont rarement solitaires. On y viendra. Tu as eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 95 et 7 années, respectivement pour Arago et Lumen. Tu as développé une partie de ton œuvre sur un cycle qui s'appelle Omal et tu travailles sur un autre cycle, enfin sur une trilogie de voyages, enfin d'une compagnie de transport interstellaire. Donc c'est dire si tu les vaisseaux spatiaux et les alors on va faire la distinction son des vaisseaux tout à l'heure, ça te connaît. Donc tu as visité toi-même plein de monde en explorateur, je dirais solitaire. Donc tu es toi un explorateur solitaire. Et puis alors vu ta production, je crois que tu as fait une soixantaine de romans. J'aurais presque envie de te qualifier de machine. Donc peut-être que la machine explorateur solitaire, c'est lui, en fait. Notre dernier intervenant, Michael Tander. Toi, tu explores donc l'espace du corps humain, et tu le fais aussi à l'aide de machines. Tu es directeur de recherche à l'INSERM, où tu développes des techniques d'imagerie médicale ou de thérapie, comme l'échographie ultra-rapide. Donc, tu travailles à l'interface de la physique et de la médecine, et tu t'efforces de concrétiser tes travaux dans des applications concrètes, réelles, enfin avec des fins utilisables. Et en ce sens, tu as participé à la création d'une société qui s'appelle Supersonic Imagine. Alors je t'avoue que quand j'ai vu le nom de ta société, je me suis dit que ça faisait très nom de vaisseau spatial. Donc peut-être qu'on va réussir à boucler les deux. Enfin non, sûrement pas d'ailleurs. Sûrement pas de cette façon-là en tout cas. Donc voilà pour nos quatre intervenants. Et puis j'ai envie de commencer par te poser la question à toi, Laurent. Donc on parle de le cœur de notre sujet, c'est vraiment les machines solitaires qu'on envoie quelque part pour explorer quelque chose. Alors je vais te demander, en termes narratifs dans la science-fiction, est-ce que c'est intéressant ça, une machine toute seule qui part explorer quelque chose, et en particulier l'espace.
Oui, bah, tout est intéressant à partir du moment où on découvre. Et c'est la première phase de la découverte, c'est de voir, c'est d'aller sur place et de voir. Donc la sonde, c'est le premier pas, j'allais dire. La SF, elle prolonge en fait ça. Dans la table ronde d'avant, il y avait Gérard Klein qui disait que l'homme est un animal prothétique. Et la sonde, c'est la prothèse ultime, c'est la prothèse qui fait de l'homme un être cosmique, un être au moins interplanétaire. Parce que ce sont ces prothèses qui nous permettent d'aller voir au-delà du globe terrestre, la planète Mars, et au-delà. Donc pour moi, c'est la sonde, c'est ça, c'est ce qui nous transforme en des êtres qui ont des sens, dont les sens s'étendent au système solaire tout entier. Mais pour moi, la sonde, je dirais que la science-fiction par rapport à ça, je veux dire que la science-fiction et le space opéra, c'est en soi une sonde spatiale imaginaire. C'est elle qui va déjà donner des représentations. Et des fois qui vont inspirer des scientifiques pour aller, qui vont donner le goût d'y aller. La SF, c'est une question de désir. Et voilà, moi, par exemple, personnellement, j'ai toujours suivi les sondes, enfin l'aventure des sondes. Et pour moi, c'est complètement lié organiquement à la représentation qui m'a été faite depuis la Mars de Gustave Le Rouge ou de Wells. Donc mais c'est vrai que en tant qu'objet inanimé, on va dire, ou en tout cas inhabité, on en trouve assez peu. Hein. J'ai un exemple qui est Star Trek The Motion Picture, c'est-à-dire le premier Star Trek où là une sonde rencontre une civilisation de machines et revient vers la Terre avec la mission de délivrer ce qu'elle a. Et donc on est entre l'objet et le sujet. Mais une sonde, ça reste un objet. Et un objet qui voit, et la science-fiction, c'est pas que le voir, c'est le faire aussi. Et pour agir, il faut de l'humain derrière. Et la science-fiction, elle va peupler les étoiles d'humains, de cosmonautes, d'extraterrestres, etc. Parce que pour avoir des histoires, il faut des sujets.
Voilà. C'était peut-être pas si en dehors de l'épure que ça quand je disais que c'était toi la sonde. Marc et Elisa, peut-être, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vos machines ou les machines que vous envoyez sont une extension du regard de Laurent, par exemple ?
Moi, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je réfléchissais à ce titre, moi, je pense qu'on est en train de vivre, du point de vue de l'exploration spatiale, on est en train de vivre une espèce de transition où jusqu'ici, ce qu'on a envoyé sont de véritables extensions de nous, à tel point que finalement, quand on compare un explorateur solitaire qui se retrouve à un moment quelque part en totale isolation, des sondes comme Voyager, celle-ci, sont des sondes avec lesquelles on est resté en permanence relié auxquelles on a laissé strictement aucune autonomie. Elles ont exécuté un programme et face à des aléas, elles devaient attendre un ordre de programmation pour réagir. Et en ça, j'ai pensé aussi à ce film Star Trek qui était, de ce point de vue-là, assez extraordinaire, parce que c'est Voyager qui nous revient, devenu quelque chose d'autre, devenu cet explorateur solitaire, revenu d'un confin qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, je trouve qu'on passe à une étape d'après, qui est que, parce qu'on est plus ambitieux et que nos sujets d'exploration nous ont amenés à cet endroit, on est maintenant obligé de construire des sondes qui ont cette capacité à couper le fil et à prendre des décisions, certes toujours à l'intérieur d'un programme, mais à prendre des décisions pour s'adapter à leur environnement ou à des informations qu'elles collectent elles-mêmes. Et donc là, je trouve qu'on s'approche beaucoup plus de la thématique de l'explorateur solitaire qui part dans un certain objectif, dans un territoire qu'il ne connaît qu'approximativement et qui va devoir réagir et s'y adapter. Alors, ça marche plus ou moins bien parce qu'on laisse plus ou moins d'autonomie à nos machines pour le faire et parce qu'on a plus ou moins bien préparé le terrain. Mais quand, par exemple, On pense à New Horizons qui est passé à côté de Pluton. Pluton, c'est tellement loin que, en fait, on ne peut pas dire à la machine « Ah, bah si tu vois ça, fais ça. » Donc, elle doit ajuster. Bon, ce qu'a Parelli aussi, poser une sonde sur Mars, à part quand on le faisait avec des coussins amortisseurs, on disait « Quoi qu'il arrive, de toute façon, les coussins vont amortir le choc. Maintenant, on veut déposer des trucs plus compliqués. » Eh bien, la séquence d'atterrissage, c'est quelque chose que la sonde doit pouvoir faire elle-même avec ce qu'on sait de l'environnement qu'elle va trouver et ce qu'on ne sait pas, ce qui fait que de temps en temps, ça ne marche pas. Donc on est vraiment là, où je trouve qu'on est en train de rentrer dans cette phase où nos sondes, au lieu d'être des simples extensions de nos sens qu'on a toujours gardées d'une certaine façon près de nous, maintenant on leur donne cette autonomie et on va les transformer en ces explorateurs plus ou moins solitaires, suivant qu'elles sont à plusieurs ou isolées.
Donc ce que tu dis, c'est que les sondes d'hier n'étaient pas si solitaires que ça et qu'elles deviennent de plus en plus autonomes. Tu disais que c'est une question d'horizon, c'est-à-dire que c'est là où on en est, mais ce n'est pas aussi l'avancée des technologies qui fait qu'on peut les laisser plus autonomes. C'est quoi qui est le plus moteur pour toi dans ce...
Je pense qu'on a toujours voulu mettre nos moyens techniques à la limite. C'est-à-dire que quand on fait de l'exploration, mais que ce soit de l'exploration du système solaire, de l'exploration de l'infiniment petit ou de l'exploration simplement d'un territoire, l'exploration par définition, c'est se placer à la limite. Et je dirais qu'aujourd'hui on commence à avoir la capacité de concevoir, ou plus exactement peut-être qu'on s'autorise maintenant cette prise de risque qui est de laisser à la machine une certaine autonomie. On s'y autorisait pas avant.
Mais maintenant, on a besoin.
Maintenant, on commence à avoir des représentations, des fonctions, des méthodes, des capteurs qui nous permettent de construire des machines qui saisissent leur environnement et qui sont capables d'en construire une représentation à l'intérieur de laquelle elles agissent. Là, ça devient intéressant. Et c'est notre évolution peut-être pas de l'intelligence artificielle, mais simplement de la reconnaissance de l'environnement et puis de la complexité de ce qu'on sait faire avec ces machines qui nous donne cette capacité de les laisser agir.
Peut-être on peut juste basiquement rappeler au public que le problème principal, c'est la vitesse finie de la lumière, hein, qui fait que quand on envoie un ordre, il est reçu, alors selon l'astre dans lequel on est, c'est vraiment variable, mais c'est une seconde pour la Lune. Et c'est combien pour Mars? C'est plusieurs minutes, hein, de 8 à 15, c'est ça? Selon là où elle est. Et donc évidemment, il y a un temps de réponse qui est dans l'autre sens, et donc si on veut avoir une boucle rapide. Alors, ça c'est quelque chose que tu dois utiliser tout le temps, toi, non? Quand est-ce qu'on perd le contact avec la fusée en termes d'ordre et de réponse?
Alors en fait, Ariane 5, elle est autonome dès 4 secondes avant son décollage. À partir de 4 secondes avant son décollage, c'est le cerveau avant son décollage. Ouais, c'est le cerveau du lanceur qui prend le contrôle et qui va vérifier son propre état de santé. Elle va se faire un autodiagnostic et puis c'est elle qui va décider de lancer la séquence de démarrage. Et là, on va commencer par démarrer le moteur Vulcain, qui n'est pas celui qui permet de décoller, parce qu'il ne pousse pas assez fort. C'est vraiment les deux gros propulseurs à poudre qui permettent de décoller. Mais on va d'abord allumer le moteur Vulcain, parce que c'est quand même une machinerie assez délicate. Et donc on va d'abord le démarrer, s'assurer, et tout ça, c'est la fusée le fait entièrement de façon autonome. Elle va s'assurer qu'il a atteint son point de fonctionnement stabilisé, que tous les paramètres sont normaux. Et à ce moment-là, donc finalement seulement 7 secondes après l'allumage du Vulcain, elle va décider d'elle-même d'allumer les propulseurs solides. Et en fait, pour le coup, Ariane, elle est vraiment solitaire à partir de ce moment-là. La seule communication qu'on a avec elle, alors on a un lien montant, mais seulement pour la détruire, au cas où elle sortirait d'un couloir de vol déterminé à l'avance. Mais elle a elle-même à bord des algorithmes qui lui permettent alors de connaître son état de santé, d'adapter l'orientation de sa poussée pour bien suivre la trajectoire optimale. Elle va recalculer sa trajectoire optimale au fur et à mesure du vol. C'est elle qui va décider où elle va de façon optimale, alors bien sûr sous certaines contraintes, pour atteindre l'orbite qu'on lui a indiquée. Et par contre, elle va envoyer des mesures au sol, à peu près 1500 mesures. Qui vont être exploitées de façon immédiate pour les aspects sauvegarde. Donc on va s'assurer qu'elle est bien dans son couloir de vol, si elle n'y est pas, POC, bouton rouge. Et après, une exploitation une semaine après, où là, on va vraiment tout dépiauter pour être bien sûr que tout s'est bien passé.
Pour optimiser les enfants suivants.
Voilà, pour optimiser les enfants suivants, détecter s'il y a eu éventuellement des problèmes. Mais elle est... elle a toutes les capacités de décision, c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle largue ses étages, etc. Par contre, pourquoi on peut faire ça, c'est parce qu'on connaît l'environnement dans lequel elle évolue, ce qui n'est effectivement pas encore bien le cas pour Mars, par exemple, où on n'a pas aujourd'hui toute la connaissance suffisante pour avoir le même niveau de fiabilité qu'on a aujourd'hui sur une Ariane, où on a des modèles d'atmosphère, de gravité qui sont hyper précis. Et puis, il faut dire qu'on fait souvent quand même des missions qui sont très similaires. Et chaque fois qu'on va sortir, parce qu'on envoie en gros globalement beaucoup de satellites commerciaux en orbite géostationnaire, mais dès qu'on va faire une mission d'exploration, où là, on va partir à des vitesses de libération, par exemple, quand on va envoyer Rosetta, enfin, quand on a envoyé il y a longtemps Rosetta, quand on va envoyer Bepi Colombo en 2017 ou 2018, là, par contre, on refait plein d'analyses spécifiques pour s'assurer que le domaine dans lequel va fonctionner le lanceur est bien maîtrisé et bien connu à l'avance. Donc, finalement, la notion d'exploration est...
Ah, d'autonomie,
alors,
quoi,
solitaire, oui. Exploratrice, disons que on l'a beaucoup aidée avant, puisqu'on a mis toutes les connaissances qu'on avait de l'atmosphère, de là où on veut aller, etc., à sa disposition dans les programmes, dans la conception du programme de vol, pour qu'elle ait toutes les infos suffisantes pour aller sur cette trajectoire qui, c'est la première fois qu'elle va faire cette trajectoire. Mais elle a toutes les infos qui lui permettent et tous les modèles qui lui permettent de se comporter correctement, même sur cette mission nouvelle. Quoi.
Donc c'est du terrain connu, mais pas terrain connu, hein, pas terre inconnue. Donc c'est du terrain connu, mais effectivement en toute autonomie. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Tu dis qu'elle corrige sa trajectoire. C'est-à-dire tout n'est pas prédéterminé à l'avance.
En fait, il y a une trajectoire optimale qui est déterminée à chaque lancement en fonction des satellites qu'on veut envoyer et d'où est-ce qu'on veut les amener. Donc il y a une trajectoire optimale et au fur et à mesure du vol, par exemple, il y a du vent qui va la faire dévier légèrement de sa trajectoire. Elle va corriger l'orientation de sa poussée pour revenir vers une trajectoire réoptimiser à chaque fois en fonction de finalement il y a toujours des écarts en fait entre, parce qu'on connaît bien mais on connaît de façon incertaine mais sur une incertitude connue, on sait par exemple que le vent il va être entre 10 et 20 mètres par seconde à tel endroit et du coup on va prévoir tout des algorithmes jusqu'à la tenue structurale de manière à ce qu'elle soit capable de résister à cet environnement. Et d'ailleurs, on a un domaine qui est bien fini de capacité hein, à tenir au vent, par exemple. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, et c'est courant hein, pour tous les lanceurs du monde, un report de tir décidé 2 heures avant le H0, parce que finalement, il y a trop de vent. Donc finalement, c'est effectivement il y a toute cette autonomie, mais dans un domaine bien défini, même s'il est incertain, il reste un cadre duquel on ne sort pas.
Peut-être avant d'aller dans le corps humain, à moins que tu sois capable de réagir spontanément à ça. Oui, vas-y.
En fait, il y a beaucoup de liens entre l'exploration spatiale et l'exploration du corps humain. Il y a plein de choses qui sont liées. Tout à l'heure, tu parlais du nom de la boîte qu'on a créée, Supersonic. C'était pas du tout un nom pris à la science-fiction. Hein. C'était vraiment, on crée des vibrations à distance dans le corps humain. Et en fait, ces vibrations, on les fait bouger à une vitesse supersonique, comme un avion qui passe le mur du son. Et ça créait des ondes mécaniques qui étaient intéressantes parce qu'elles nous donnaient accès à la dureté. Donc c'est les mêmes concepts en fait, qu'on retrouve. Alors nous, c'est un peu particulier parce que là, vous parliez de terrain connu pour vous. Nous, en médical, en fait, très souvent, le terrain, il n'est pas connu du tout en fait, parce que chaque personne est différente. Et donc, de plus en plus, en ultrasons par exemple, on est obligé d'essayer de corriger nos images en prenant en compte le patient. Chaque patient est différent. Donc on a des techniques, comme d'ailleurs en aérospatiale, des techniques de correction adaptative de nos images. On essaye de connaître le milieu dans lequel on est. Est-ce qu'il y a plus ou moins de graisse, plus ou moins de muscles? Et on corrige progressivement la qualité des images. Alors il y a vraiment plein de liens. Et il y a aussi quelque chose que tu disais tout à l'heure, Marc, sur le fait qu'on laisse maintenant de la liberté, en fait, vous commencez à laisser de la liberté à vos sondes. Nous, en médecine, c'est un peu plus compliqué parce que, justement, on va aller voir, on va aller comprendre la maladie très rapidement. On peut, quelquefois, aller en quelques millièmes de seconde faire une image et voir qu'il y a un problème. Mais ensuite, on est obligé quand même de revenir vers le médecin parce que la machine n'a pas le droit, pour des raisons éthiques, de prendre la décision toute seule, en fait. Donc c'est ça, je crois que c'est la seule grande différence que je vois entre l'exploration du corps humain et l'exploration de l'espace. En
fait. Et la vitesse de la lumière, peut-être.
Et la vitesse.
Qui fait que pour eux, c'est même, ouais. Même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas.
Ouais.
Bon, peut-être que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, puisque...
Oui, bah, moi, je fais de l'échographie ultra rapide, des systèmes de thérapie, en fait, des appareils qui sont capables d'imager, de diagnostiquer. Et nous, en ultrasons, généralement, les images sont obtenues à 50 images par seconde. C'est la télévision du corps humain. C'est la même cadence que lorsque vous nous regardez. En fait, vous voyez à 50 images par seconde à peu près. Et donc, c'est largement suffisant pour voir nos mouvements. Mais ce n'est pas suffisant pour voir, par exemple, une balle traverser la pièce. Là, c'est le monde de l'infini. Moi, j'appelle ça infiniment rapide, mais c'est vrai qu'il y a une limite. Et notre labo a créé le premier échographe ultra rapide qui est capable d'aller jusqu'à 10 000 images par seconde à peu près. Donc on voit dans le monde de la milliseconde et on a atteint la limite. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez du temps qu'il faut pour que l'information aille jusqu'à la sonde et revienne. Nous, en fait, on a atteint cette limite-là. C'est-à-dire qu'on envoie les ultrasons, ils pénètrent dans le corps, ils vont jusqu'à une certaine profondeur, ils reviennent et on en fait une image. Et on arrive maintenant à traiter les données à la vitesse de récupération de ces données qui est à peu près 5-10 000 images par seconde.
Donc vous avez votre vitesse de la lumière à vous la vitesse du son, en fait.
Voilà, c'est notre... Elle est beaucoup moins rapide, bien sûr, mais on est quand même déjà dans un monde qui n'est pas celui de la vie de tous les jours, c'est le monde de l'ultra-rapide, le monde de l'infiniment rapide. Et ce monde-là, il est extrêmement intéressant. C'est pas juste avoir plus d'informations, c'est on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Là, quand je suis en train de vous parler, mes cordes vocales vibrent. Et en fait, elle crée plein de vibrations dans mon corps. Et ces vibrations, on n'est pas capable de les voir, nous. Mais la machine est capable, comme elle est plus rapide que nous, elle est capable de voir ces vibrations et d'en tirer une information sur la mécanique du corps humain, par exemple. Donc, c'est vraiment pas juste de l'accélération. C'est vraiment rentrer dans un nouveau monde où il y a plein de phénomènes qui se passent qu'on ne voit pas naturellement.
En fait. Donc, en cela, c'est vraiment exploratoire.
Oui, ouais.
Mais pas très solitaire. Donc.
Mais pas très solitaire, oui.
Est-ce que je peux vous lancer les uns les autres sur la prochaine génération, c'est-à-dire déjà peut-être où on en est en termes de sondes, jusqu'où on est allé, jusqu'où les sondes sont allées physiquement. Après, elles ont observé des choses qui sont bien plus loin que là où elles sont allées, évidemment. Voilà,
physiquement, c'est peut-être finalement un peu décevant dans un festival de science-fiction, mais physiquement, on est tout juste sorti du système solaire. On ne l'a pas fait pour ça, hein, ce sont les sondes Voyager qui sont sorties. On ne les avait pas construites pour sortir du système solaire. Et je trouve que c'est finalement quelque chose d'assez formidable de penser que ces sondes-là sont arrivées jusqu'à ces confins du système solaire. Du point de vue astrophysique, le système solaire ou les confins du système solaire, c'est quand même la banlieue parisienne depuis le centre de Paris, voire encore plus près, quoi. Donc et aujourd'hui, par exemple, dans les projets que l'on fait, on imagine effectivement d'envoyer des sondes cette fois-ci spécifiquement au-delà du système solaire pour comprendre in situ qu'est-ce que c'est que le milieu interstellaire, puisque dans notre système, en fait, on est protégé de l'influence du milieu interstellaire par le Soleil. Donc on n'est pas allé très très loin. Maintenant, on peut aussi prendre ça d'une autre façon. Et là, je me souviens d'une image que j'avais vue. C'était un étudiant qui présentait en fait sa candidature pour être recruté. Et il avait fait sa présentation et il travaillait sur les surfaces rocheuses. Et sur sa présentation, il y avait 5 photos de surface. Et j'ai réalisé que c'était 5 photos prises de la surface d'un corps du système solaire. Donc il y avait la Lune, il y avait la Terre, il y avait Mars, mais il y a un satellite de Saturne. Et là, je pense qu'on voit jusqu'où on est allé. C'est-à-dire, du point de vue de l'échelle astrophysique, on n'est pas allé très très loin. Mais du point de vue de l'échelle humaine, il faut bien réaliser qu'on a commencé à poser des objets sur des corps du système solaire. Et par exemple, il y en a un, Rosetta, sur lequel on a posé un objet un peu tant bien que mal, mais il est là et il va témoigner de l'étendue de notre de notre exploration quasiment indéfiniment, puisque c'est, enfin, cette comète rencontrera peut-être un autre corps céleste qui la détruira. Mais là, pour moi, il y a une symbolique très très forte dans la portée de notre exploration et qui montre à quel point on a pu, par l'intermédiaire de ces machines, sortir de notre propre monde, augmenter la portée de notre imagination et de notre observation, et laisser une trace, qui est certes une trace minuscule, une trace symbolique, mais qui pour moi, enfin, quand on a vu les photos que l'agence spatiale a finalement réussi à faire de Philae posée dans un petit coin, pour moi c'est une photo qui est finalement aussi forte que l'empreinte des astronautes sur la Lune. C'est-à-dire, voilà, ça montre, avec quelque chose qui est relativement modeste, hein, qui tient sur cette table, ça montre la portée de l'espèce humaine et la capacité de tout ce que l'on peut faire en termes d'exploration. Et ça a aussi un petit côté, ça rejoint ce titre-là, ça a aussi un côté poignant sur la solitude de ces objets. Et je trouve que c'était quelque chose qui me ramenait beaucoup à, finalement, dans le côté, ce mot solitaire, moi, il m'a beaucoup fait réfléchir. Je pense que ces machines, comment est-ce qu'on peut raccrocher cette chose solitaire? Finalement, quand on construit ces objets-là, que ce soit un observatoire, il nous ramène à quelque chose dans laquelle on est finalement un peu seul, qui est son propre questionnement vis-à-vis de l'univers. Et ça, c'est quelque chose dont on fait l'expérience chacun, qu'on peut partager, mais qui a un côté irréductible à sa propre personne. Et finalement, ces machines-là, elles étendent notre portée, elles étendent notre regard, mais elles conservent cet écho de notre propre solitude vis-à-vis de ce que l'on va voir, de ce que l'on va percevoir, notre propre singularité, peut-être plus que solitude. Et il y a dans ces photos-là de cette trace de pied sur la Lune, un petit peu aussi quand on le voit dans le film Seul sur Mars, c'est-à-dire quand il retrouve une sonde qui a été posée avant lui, il y a quelque chose de ce témoignage, de cette force symbolique de l'exploration, et de la même façon qu'on peut le retrouver en retrouvant des traces d'explorateurs qui partaient au pôle Sud. Voilà, quelque chose nous revient et nous rappelle notre propre expérience de solitude vis-à-vis de la perception du monde. Donc, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très très fort dans ces images-là, à laquelle je raccroche cette notion d'explorateur solitaire, même si ces machines, quand on y réfléchit, c'est pas Livingstone, c'est voilà, on leur tient quand même longtemps la main.
Non, mais tu me disais avant en préparant cette table ronde que elles étaient presque personnifiées. Philae, c'est un copain, non? Enfin, on a tous l'impression que, enfin, ça aurait pu être quelqu'un presque. Je sais pas,
Bah, c'est vrai que ça a été toute la communication qu'il y a eu au-dessus et a été bien orchestrée. Mais en même temps, je pense que les gens ils ont vraiment suivi avec beaucoup d'empathie presque pour ce petit robot, sa descente, son atterrissage. Et finalement, bah notamment avec Twitter et des moyens comme ça, en fait, Twitter, finalement, à chaque fois, c'est une machine, hein, qui envoie les messages qu'il y ait. Du coup, ça permet aussi peut-être d'accepter plus facilement cette humanisation des sondes. Après, Curiosity aussi sur Mars, il y a eu beaucoup de... Enfin, c'est pareil, il y a Twitter aussi, hein, Curiosity. Donc, enfin, moi, c'est quelque chose que, en tant qu'ingénieur, mais encore en tant que grand public, j'ai beaucoup apprécié. Et ça, je trouve, ça a peut-être aussi amené des gens à s'intéresser plus à ce petit robot, alors que si on en était resté de façon strictement sur ses résultats scientifiques, etc., ça aurait peut-être eu moins de portée. Et le fait de le personnifier un petit peu, et ce côté... En fait, c'est ce côté, effectivement, ce côté exploration, ce côté suspense, ce côté inconnu. Est-ce qu'elle va réussir? Et est-ce qu'on va réussir? Parce qu'en fait, c'est pas la sonde qui réussit. Concrètement, c'est tout ce qu'on a mis dedans, tous les algos qu'on a mis dedans, les calculs qu'on a faits, toutes les simulations qu'on a faites. Et Et quelque part, voilà, c'est derrière ce petit explorateur solitaire, je trouve qu'il y a la notion de réussite collective. Est-ce qu'on va, est-ce que l'Europe va réussir à poser un truc, enfin et il est solitaire, mais on est là derrière, quoi, tous un peu.
Est-ce qu'il tweet tes échographes ou...
Non, pas encore.
Tu penses que ça peut venir ?
Il y a de plus en plus de télémédecine. On a plus forcément un rendez-vous avec un médecin physiquement. Il peut être à distance. Donc cette télémédecine se développe énormément en fait. Donc mais pour l'instant c'est pas du Twitter. Ouais. Heureusement.
Alors est-ce qu'on peut essayer de... Oui, Marc, tu vois.
Je dis juste que c'est des diagnostics en plus de 140 caractères. Donc c'est... Ouais.
Non, par contre, il y a des gens qui utilisent maintenant, qui essaient de démontrer des concepts qui sont envoyer des images, par exemple, pour essayer de diagnostiquer la malaria, qui sont des images de microscope. Et ces images sont envoyées sur un serveur et des gens jouent à essayer de diagnostiquer la malaria. Et quand on met ce jeu en ligne et qu'il y a des cadeaux qui sont donnés aux gens quand ils ont bien joué, et ben on se rend compte à la fin que le diagnostic qu'ils font quand on prend une population énorme, en moyenne, est extrêmement bon. Et donc on va peut-être aller vers des choses comme ça. En fait.
Non, mais ça donne envie de tomber malade surtout.
Pas trop. Il y a ce monde.
Moi, ça me fait penser.
Non, mais en fait, pardon.
Enfin, juste le côté, voilà, je mets des données que les internautes peuvent sélectionner, etc. Il y a un site qui s'appelle Galaxy Zoo où justement, en fait, on donne aux internautes un certain nombre de critères pour classer les galaxies. Et donc, ils peuvent, voilà, si ça les amuse, vous pouvez aller classer des galaxies et contribuer comme ça à l'exploration de l'univers.
Hein. Oui, c'est le même concept.
Moi, ça me fait penser en fait au voyage fantastique ou à l'aventure intérieure, ce côté. Je voyais pas ça en fait sous l'angle de l'exploration. Je me demande en fait, d'ailleurs, quelle est encore la part d'exploration dans le corps qui a été quand même bien disséqué de partout, quand même depuis des siècles, de l'homme. Qu'est-ce qui reste à quelle zone d'ombre il reste à éclaircir sur le fonctionnement du corps humain?
Il y en a des tonnes, en fait.
Fais attention, Mickaël, parce que tout ce que tu vas dire va finir dans un roman.
Non, il y en a des tonnes. On est encore... nos limites, elles ne sont pas à l'infini, mais elles sont vraiment peut-être dans l'infiniment petit à l'intérieur du corps. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on voit au microscope quand on prélève un échantillon et qu'on regarde. Mais les voir chez un patient à travers toutes ces couches de tissu en profondeur, ça c'est un autre challenge et ces choses-là on ne les voit pas. Il y a notamment, je pense, le réseau sanguin, on voit très bien les carotides, on voit très bien le fonctionnement du cœur avec les flux sanguins, la turbulence. Mais dès qu'on essaie d'aller voir ce réseau vasculaire qui est un arbre, c'est un arbre qui devient
plus capillaires, ouais.
Et ben les capillaires, on les voit pas du tout aujourd'hui. On les voit en surface, mais on est incapable de les voir en profondeur. Donc ça, c'est un exemple. Le collagène aussi dans nos artères, en prélevant un échantillon, on va être capable de le voir. Mais on aimerait être capable d'envoyer soit des ondes, soit des sondes qui soient capables de voir ces choses qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'estimer. Et sur le fonctionnement du corps humain, il y a encore des concepts. Énormément de concepts qui ne sont pas expliqués. Il y a un ou deux ans, je me suis intéressé un peu au problème de la tension et je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne sais même pas comment on prend la tension, c'est un peu con, il faut que je vérifie. Et en fait, en regardant la littérature sur la prise de tension, ce que font tous les médecins dans le monde, ils compriment les artères et ils écoutent un son. Et ce son, c'est un son qui s'appelle le bruit de Korotchev. Et ce bruit de Korotchev, en l'écoutant, ils sont capables de dire quelle est la pression systolique et diastolique. Quand on vous donne votre tension, c'est exactement ça. Ils écoutent les sons. Et ces bruits de Korotchev, je me suis rendu compte que le phénomène physique n'est pas encore bien compris et pas encore bien expliqué. Donc vous voyez, des choses de base, on ne comprend pas encore le corps humain. Et puis on se rejoint beaucoup à l'exploration spatiale et l'exploration du corps humain, parfois, parce que en ultrasons notamment, dans les années 70, il y a eu une grosse évolution de l'échographie en France, poussée par quelqu'un qui s'appelle Léandre Pourcelot, parce qu'il a envoyé les premiers échographes dans les navettes spatiales pour étudier le flux sanguin des astronautes. Parce qu'on ne savait pas du tout comment le flux sanguin allait supporter la pesanteur. En fait, sur Terre, on a une certaine forme d'apesanteur, donc notre cœur réagit d'une certaine façon pour envoyer le sang un peu partout dans notre corps. En apesantant, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc, ils ont fait un effort énorme pour miniaturiser dès les années 70 les échographes et les mettre dans les navettes spatiales, à la fois avec les Russes et les Américains.
Mais dans la SF récente, elle s'est réappropriée le corps humain via les nanomachines, via des micro-robots qui sillonnent les veines et tout l'organisme, en fait. Et du coup, ça ramène une forme de guerre à l'intérieur de la, d'ailleurs dans la SF, puisque qui dit machine dans le corps dit aussi hacking, dit aussi dysfonctionnement, dit rébellion des machines, etc. Donc le corps redevient un champ de bataille d'une certaine manière au niveau imaginaire via certaines narrations dans la SF.
Après Star Wars, tu peux imaginer.
Oui, on a. C'est pas de la science-fiction, on est dedans en ce moment. Là, on a, au laboratoire, nous, on a créé des nano-vinaigrettes, des toutes petites gouttes, en fait, qu'on pourra injecter dans le flux sanguin chez le patient un jour. Et dans ces nano-gouttes, on a du perfluorocarbone liquide. Alors, le perfluorocarbone liquide, je pense que vous en avez entendu parler si vous aimez la science-fiction. Vous vous rappelez le film Abyss ? Dans le film Abyss, oui. Les plongeurs allaient très profond et c'était du liquide, en fait, qui permettait de respirer. Et ben, ce liquide perfluorocarbone, il est intéressant parce que quand on envoie les ultrasons dessus, il vaporise très vite. Et donc, un échographe peut déclencher l'action et les gouttes s'ouvrent et laissent sortir le médicament qui est à l'intérieur. Et donc, on peut même fabriquer le médicament directement dans la tumeur. Si on a des gouttes qui contiennent un composé A, des gouttes qui contiennent un composé B, on envoie les ondes dessus et A plus B donne C. Donc, on fabrique le médicament ultra toxique que dans la tumeur. Et en fait, c'est le champ de bataille. En fait, c'est ça. On veut limiter le champ de bataille à un endroit. On ne veut pas que ça soit tout le corps. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, par exemple, la chimiothérapie, pour attaquer juste une petite lésion qui fait un centimètre cube, on est obligé d'attaquer le champ de bataille total du corps humain. Là, on voudrait vraiment limiter le champ de bataille à un endroit en fait, particulier.
Et comment tu les guiderais jusqu'à la...
Oui, avec les ultrasons.
C'est les ultrasons qui...
Exactement. Les gouttes se baladent un peu partout dans le circuit sanguin en permanence. Et puis, on va... éthiquement, en plus, c'est intéressant parce que c'est le radiologue qui fait l'expérience, qui voit l'image, qui décide, oui, là, je suis sûr de mon diagnostic, je vais aller à cet endroit, il clique dans l'écran, et enfin, là, je rêve un peu, mais ça va bientôt arriver, il cliquera dans l'écran, et l'onde ultrasonore va arriver à cet endroit-là et larguer les gouttes que à cet endroit-là dans le corps. En fait.
Et c'est pour quand, ça ?
On est déjà dans des tests, pas encore des tests cliniques, des tests précliniques. On a fait les preuves de concept il y a un an et demi. Donc, bien sûr, il va falloir du temps pour aller en clinique parce que dès qu'on introduit des agents à l'intérieur du corps, il y a plein d'études de toxicité à mettre en place. Donc, ça va prendre quand même 5-6 ans avant d'arriver chez le patient. Mais ça va arriver.
D'accord. Donc, avant de donner une chance au public de vous poser des questions, peut-être on pourrait envisager le futur lointain de l'exploration spatiale. Donc, on sait où sont allées les sondes les plus lointaines. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin ? C'est peut-être Elisa, quels sont les scénarios ? Alors, je pense que Laurent est déjà allé beaucoup plus loin que ce qui est envisageable aujourd'hui. Mais comment on ira plus loin ? Est-ce qu'on a des idées ou est-ce que c'est sans espoir ?
Alors malheureusement, les idées, c'est pas tellement pour aller plus loin, parce que aller plus loin, c'est trop loin. C'est vrai, en fait, Voyager, aujourd'hui, il est sorti du système solaire, mais en gros, il est qu'à 0,00 quelque chose années-lumière. Et Proxima, c'est 4 années-lumière. Donc c'est juste... j'ai pas dans mes tiroirs quelque chose qui permettra d'aller sur Proxima... Dans les 50 ans à venir, mais bon, peut-être quelqu'un aura... pas sur une vie humaine, quoi. Donc, les technos qu'on va regarder, c'est pour aller un peu plus vite ailleurs dans le système solaire. Voilà, donc c'est-à-dire que là, Voyager, il est quand même parti en 77, donc il a pris son temps, le temps qu'il fallait, hein, pour aller jusque-là, donc 40 ans. Donc, est-ce que nous, on va effectivement réfléchir à des solutions pour aller aussi loin, mais plus vite. Ça passe par potentiellement des nouvelles sources d'énergie, puisque aujourd'hui, la propulsion électrique avec les moteurs ioniques, c'est déjà une réalité. C'est alimenté par des panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires tant qu'on est proche du Soleil, jusqu'à Mars, jusqu'à Jupiter, ça peut encore le faire. Par contre, au-delà, si on veut continuer à fournir de l'accélération par de l'énergie embarquée, bah, il faut autre chose. Donc là-dessus, bon, il y a des études, hein, j'en ai parlé un petit peu ce matin, sur des réacteurs nucléaires qui pourraient permettre donc, de fournir de l'électricité à ces sondes. Donc ça, alors il y a des missions hein, qui avaient été envisagées, par exemple JIMO, qui était une mission vers les lunes de Jupiter dans les années 2000. Donc ça permettait d'aller vers Jupiter et de faire un tour des lunes de Jupiter, c'est-à-dire pas seulement de passer à côté de Jupiter, mais d'aller se balader, voir chacun des satellites de Jupiter, et finalement en seulement quelques années. Et ça, c'était possible avec un réacteur qui faisait 200 kW, donc qui est une technologie qui est tout à fait accessible à horizon de 10 ans, pourvu qu'on s'y mette, quoi, et qu'on investisse l'argent. Derrière, il y a un autre axe, donc il y a soit aller plus vite, mais ça demande beaucoup de... Enfin, voilà, ça demande développement de nouvelles technologies sur lesquelles qui demandent quand même un investissement assez fort. Et sinon, il y a y aller pas plus vite, mais y aller moins cher. Donc, y aller avec des systèmes qui vont être plus efficaces. Donc déjà, plus efficaces, c'est sûr que la propulsion électrique, c'est beaucoup plus efficace que la propulsion chimique. Donc, c'est quand même une tendance forte des missions futures de s'appuyer un peu plus sur la propulsion électrique. Et sinon, bah, y a la voile solaire, hein, pourquoi pas, qui est une solution élégante avec zéro consommation d'ergol. Par contre, là encore, les poussées sont vraiment micrales, hein, littéralement. Et du coup, là, c'est plutôt pour... on peut aller loin, mais faut pas être pressé. Par contre, on peut aller loin sans avoir besoin d'embarquer de systèmes fluides, par exemple, dédiés à la propulsion.
Et l'idée d'envoyer une toute petite sonde avec une très, très grande voile solaire très, très loin, c'est de la science-fiction ?
Alors, pas du tout, parce qu'en fait, les Japonais ont envoyé vers Vénus une sonde qui faisait 300 kg avec une voile solaire de 200 mètres carrés. Qui elle-même pesait 15 kg, donc qui était en capton, 7 microns en gros d'épaisseur, et sur lequel on vaporise de l'aluminium pour récupérer la pression des photons. Donc non, c'est tout à fait une réalité.
Non, moi, je voulais juste dire que, en fait, si on essaie de revenir à qu'est-ce qui nous pousse à aller aussi loin. Et je pense que fondamentalement, ce qui nous pousse à aller aussi loin, c'est cette volonté de comprendre le monde. Et je crois que si on repart là, de ça, on peut se poser la question finalement, comme tu dis, hein, je pense que très très vite, on en conclut que la possibilité de sortir du système solaire pour aller quelque part... C'est très bien pour la science-fiction et la science-fiction est vraisemblablement le seul moyen de le faire. Et heureusement que ça existe parce qu'on va toujours avoir besoin de ce moteur-là. Mais après, si on en revient à ce qu'on va être capable de faire, je pense que nos capacités en matière de connaissance du monde ont encore un horizon gigantesque et cet horizon, il est loin en termes de... les machines qu'il faut qu'on construise pour cela, la connaissance et la compréhension du monde qu'il faut qu'on arrive à mettre en place pour ça. Mais il est proche en termes de distance. Et là, par contre, il y a une richesse absolument énorme dans ce qu'on va pouvoir, ou dans l'amplitude des phénomènes qu'on cherche à comprendre et à aborder, que ce soit d'essayer d'aller mesurer la composition d'atmosphères d'exoplanètes, donc de planètes autour d'autres étoiles que la nôtre, que ce soit d'essayer de comprendre si dans le système solaire il y a d'autres endroits qui sont susceptibles d'abriter la vie. Ces questions qui sont fondamentales, qui sont celles qui nous poussent finalement, du point de vue de la science-fiction, à tenter le voyage interstellaire, c'est des questions qu'on peut aborder dans notre propre système et avec des outils qui sont... Certes, aujourd'hui, il faut utiliser la science-fiction comme une espèce de marchepied pour aller inventer cette technologie qu'on n'a pas encore ou qu'on n'ose pas encore penser qu'on a. Parce que bien souvent, je pense, dans le spatial, il y a une espèce de saut parfois à franchir pour dire « je ne pensais pas que je pourrais faire cette technologie, mais finalement, si je me dis qu'elle est possible, eh bien, je vais trouver le chemin qui m'y emmène ». Donc la science-fiction, pour ça, c'est un moteur extraordinaire. Ben, en faisant ça, en fait, l'horizon... Je dis ça parce que moi...
Un bon promoteur.
Hein. Non, mais je parle pour mon cas, parce que moi, si je fais de l'astrophysique, c'est parce que je suis un fan de science-fiction. Et quotidiennement, quoi. Et bien, là, l'horizon est extraordinairement vaste et bien plus ouvert que l'horizon du voyage de l'homme dans l'espace. Celui-là, il faut bien admettre qu'il est assez fermé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut rêver, on peut faire des films, on peut écrire, et on peut par ce biais-là le vivre. Chacun de nous, alors que par le biais de l'exploration spatiale humaine, pratiquement personne dans cette salle ne le fera. Donc c'est beaucoup plus démocratique. Et alors que l'exploration du monde par le biais des machines qu'on est capable de construire, elle est très très loin d'être finie. Il y a une richesse extraordinaire qui s'ouvre à nous, comme elle s'est ouverte au siècle précédent, mais qui continue.
Puis on oublie peut-être là dans ce qu'on a dit qu'en fait un satellite comme Herschel, il est pas si loin de la Terre que ça, et c'est lui qui nous permet de voir des choses qui sont pour le coup à des centaines, millions, milliers d'années-lumière, quoi. Et en fait, il n'y a pas besoin forcément d'aller super loin pour observer ce qui est super loin.
Exactement. Le James Webb Space Telescope, qui sera placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc dans notre voisinage. Un de ses objectifs, c'est d'aller voir les explosions des premières étoiles de l'univers. Donc, vraiment, les premiers objets qui ont existé un jour dans l'univers. Donc, effectivement...
Il est juste à 1,5 million.
Et il est juste à côté. Hein, il est vraiment juste à côté. On pourra le voir, pas à l'œil nu, mais presque.
Et il sera lancé par Ariane 5.
Un petit peu de publicité. On a 10 minutes pour prendre des questions dans le public. Je crois que... J'en vois une là-bas. J'en vois une autre derrière.
Bonjour.
Bonjour,
j'avais une question juste. Il me semble que la NASA est en train de construire un interféromètre capable de détecter des microbules ou des micro-ondes dans l'univers. Est-ce que c'est possible d'utiliser ce type de technologie pour la mettre dans une sonde pour aller plus loin et plus rapidement dans l'exploration spatiale? Merci.
Alors, je ne suis pas sûr d'être au courant de tout, ni parce que y a, dans votre question, il y a des mots qui correspondent à des objets que je connais bien, il y en a d'autres que je connais moins. L'interférométrie, pour être rapide, c'est une technique d'observation qui permet de disposer d'un très grand télescope sans construire un très grand télescope. C'est-à-dire, j'en construis une série de petits, je les dispose sur une très grande étendue, et puis je combine l'information que je récupère avec eux d'une façon astucieuse, et ça me donne quasiment la même qualité d'information que si j'avais eu un très très grand télescope. Ça, c'est très intéressant pour distinguer des détails extrêmement fins. Et qui dit détails extrêmement fins dit souvent objets extrêmement petits, donc objets extrêmement lointains. Donc l'interférométrie, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aller observer des objets qui sont très très loin et qui seraient indétectables avec un grand télescope. Alors, je me demande si vous ne faites pas une confusion avec... on parle beaucoup d'un interféromètre, mais on parle d'un interféromètre gravitationnel dans l'espace. Parce que pour faire un interféromètre, je dirais, qui utilise le rayonnement électromagnétique, en fait, sur le sol, quand on se passe dans les domaines où ça nous est intéressant, ça marche très bien aussi. Mais on va dans l'espace pour avoir la dimension. Et le grand projet spatial d'interféromètre, c'est un interféromètre gravitationnel qui est l'interféromètre ELISA, qui pour l'instant est européen, pas américain, et avec éventuellement une participation des Américains s'ils souhaitent s'y joindre, et qui volera en 2035. Et là, ce qu'on cherche à voir, c'est donc des ondes gravitationnelles, donc une physique qu'on commence seulement à entrevoir, qui est celle liée aux fusions de trous noirs, et donc aux événements extraordinairement énergétiques. L'intérêt des ondes gravitationnelles, c'est que, comme vous le savez, il n'y a pas d'antigravité, donc une onde gravitationnelle, elle se propage dans l'univers sans être jamais absorbée. Ça veut dire que si vous avez la bonne sensibilité, vous pouvez détecter des événements, quel que soit l'endroit où ils se sont produits. Et de façon ultime, un jour, on espère pouvoir construire un interféromètre gravitationnel qui nous renseigne sur les premiers instants de l'univers, qui ont généré beaucoup d'ondes gravitationnelles. Mais malheureusement, je pense que l'ISA ou ELISA n'est pas encore celui-là. Celui-là, il nous amènera à comprendre les autres sources d'ondes gravitationnelles dans l'univers, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, mais pour les sources cosmologiques d'ondes gravitationnelles, il faudra attendre l'étape d'après, quand on fera des interféromètres qui ont la taille du système solaire. Donc, qui apparaîtront d'abord dans les livres de science-fiction.
qui sont sans doute déjà apparus, non?
Je ne crois pas qu'on ait beaucoup traité de la sorte, mais oui, maintenant, on en trouve plein, surtout.
Il y a une autre question?
Bonjour, je me posais la question sur la Lune et une hypothétique possibilité d'avoir un spatioport international sur la Lune qui permettrait justement d'économiser aussi sur les coûts de lancement dus à Ariane 5. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé, sachant que les Américains ont déjà voté il y a quelque temps des explorations sur la Lune à but financier? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé ou pas du tout?
Alors la question sur ça, c'est lié finalement à est-ce qu'il est intéressant techniquement et économiquement d'avoir sur la Lune une base pour une base de départ d'exploration. Le gros problème avec ça, c'est que la Lune n'a pas de ressources à offrir pour la propulsion. Si je veux décoller de la Lune pour aller quelque part, il faut que j'emmène sur la Lune de quoi en décoller. Donc là, ça pose tout de suite un problème, parce que ça veut dire que soit il faut que j'aille construire sur la Lune une usine qui va me produire de l'oxygène et puis un comburant. Le problème, c'est que pour produire l'oxygène sur Terre, on le fait à partir de l'air. Sur la Lune, j'ai pas d'atmosphère. Donc comment je vais produire? Alors il y a peut-être un peu d'oxygène dans le régolithe, bon, mais de là à réussir à produire un comburant et un combustible sur la Lune pour pouvoir en décoller, je pense que ça présente pas aujourd'hui d'intérêt majeur, parce que ça coûterait tellement cher d'emmener tout ça. Puis en fait, je vais faire atterrir un truc pour faire redécoller un autre truc. Donc c'est pas... À moins qu'effectivement, on ait des systèmes de propulsion par fusion avec de l'hélium-3. Et là, dans le régolithe lunaire, OK, il y a de l'hélium-3 que peut-être on saurait un jour extraire, etc. Mais c'est très futuriste. Il y a plus des options de stations orbitales, mais pas à la surface de la Lune, en fait. Il y a des projets divers, hein, de stations orbitales proches de la Lune ou entre la Terre et la Lune, qui pourrait servir de base d'entraînement, éventuellement de station-service, quoi, depuis la Terre, en fait. On enverrait à cette station-service des modules pour recharger d'autres modules, pourquoi pas. Mais c'est aujourd'hui, il faudrait vraiment que les coûts de lancement soient extrêmement réduits pour que envoyer toute cette masse en orbite soit plus intéressant qu'envoyer directement cette masse là où on veut l'envoyer. Et c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus direct et beaucoup moins cher. Quand je veux envoyer un truc sur Mars, je vais vers Mars. Je ne vais pas d'abord vers une station lunaire avant d'aller vers Mars, quoi. Et il faut savoir que, en fait, Mars, c'est beaucoup plus loin. Mais en termes énergétiques, envoyer quelque chose sur la Lune ou envoyer quelque chose vers Mars, c'est quasiment exactement pareil. Parce qu'en fait, une fois que j'ai atteint la vitesse de libération de la Terre, hein, donc en gros 40 000 km/h, pour aller vers la Lune, en gros, je dois fournir un supplément de vitesse qui est en gros de 3,2 km/s. Pour aller sur Mars, c'est de 3,6 km/s. C'est pareil, c'est quasiment pareil. C'est juste que une fois que je suis sur cette orbite, une fois que j'ai fourni cet incrément de vitesse, c'est le Soleil qui fait le boulot et qui m'emmène vers la Lune ou qui m'emmène vers Mars. Et du coup, l'énergie que je dois fournir, c'est quasiment la même pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Par contre, sur Mars, et aussi bien pour aller sur la Lune, après, une fois que j'y suis, il faut que je freine. Et ça, c'est une grosse difficulté, c'est sûr.
Et puis, si tu vas toi, il faut que tu reviennes aussi, ce qui n'est pas...
Et puis, alors, si tu envoies quelqu'un et que tu veux le ramener, voilà, ça fait beaucoup de masse à emmener.
En fait, j'avais une question, en fait, pour vous. C'est...
Question dans le public.
Ah, d'accord. Bon, peut-être le public d'abord, alors. Avec les progrès sur les IA, est-ce que les progrès de l'IA sont en train de redéfinir les missions de sondes prochaines? Est-ce que les progrès là-dessus, en termes d'autonomie, justement, ça crée des nouvelles missions ou ça transforme des missions?
Alors, il faut peut-être plutôt que tu poses la question à Marc, parce que moi, je travaille sur comment on décolle et éventuellement comment on transporte, mais pas tellement sur ce qu'on fait là-bas.
Je ne suis pas sûr que ça soit encore arrivé à ce point-là. C'est-à-dire, ce qui est très clair, c'est que maintenant, on s'autorise des missions qui sont du point de vue de leur dynamique dans le système solaire, beaucoup plus complexe. Et ça, c'est pas véritablement un problème d'intelligence artificielle, mais c'est un calcul de mécanique céleste assez compliqué. Et comme tu le disais, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on réalise assez mal, hein, quand on parle voyage dans le système solaire. C'est, on fait une espèce d'analogie avec quand je pars en vacances pour aller à tel endroit, ça va me coûter tant. Mais dans le système solaire, c'est un système dominé par la gravitation. Tous les corps interagissent par ce biais-là. Et en fait, pour aller d'un point à un autre, on va utiliser la gravitation. On va tomber dans le potentiel gravitationnel du Soleil et puis en ressortir au bon moment avec la bonne vitesse ou utiliser du rebond sur des planètes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant de façon assez systématique. Rosetta a fait ça, des allers-retours en faisant quelques survols de la Terre. Je pense qu'on s'autorise maintenant des trajectoires qui intègrent la complexité gravitationnelle du système solaire qu'on ne faisait pas avant. Mais on n'a pas encore doté nos sondes d'intelligence artificielle pour choisir leur chemin là-dedans.
Voilà, je pensais à la prise de décision, soit sur place, soit pour approcher.
On prend la dernière question du public, vite fait.
Donc la SF a encore de l'avance. Oui, encore.
Alors, bonjour, c'est peut-être une question complètement néophyte, mais en fait, je me demandais, étant donné qu'on envoie des sondes un peu partout dans le système solaire, entre autres, principalement auto-centrés que nous sommes sur nous, êtres vivants, pour trouver entre autres de la vie, pourquoi, et peut-être que c'est le cas, et là vous allez me l'apprendre, on n'envoie pas plus de missions vers des types de lunes comme Europe, par exemple, où on sait quand même qu'on a, malgré une bonne grosse couche de glace, des océans bien plus importants que ceux qu'on a sur Terre, et l'eau liquide étant quelque chose que nous considérons auto-centré sur la Terre, que nous sommes comme étant la base pour avoir quelque chose de vivant, ça me paraîtrait être intéressant.
Alors, déjà, je ferai un petit commentaire. Il faut retirer, pour comprendre qu'est-ce que c'est que notre programme spatial, il faut retirer le filtre qu'on met dessus quant à la façon dont on communique sur notre programme spatial. On communique énormément sur la recherche de la vie sur les autres corps du système solaire. Cela dit, je pense que si on regarde, qu'on fait un petit peu le compte des missions d'exploration spatiale qu'on a fait, qu'on regarde lesquelles avaient quelque chose éventuellement à dire sur la vie, je ne suis pas certain que ça soit le moteur principal de l'exploration du système solaire. Alors on peut dire que ça reste auto-centré, puisque ce qu'on cherche à comprendre quand on explore le système solaire, c'est d'où est-ce qu'il vient et quelles ont été les conditions de sa formation. Est-ce que les conditions de formation de planètes telluriques sont des conditions exceptionnelles? Est-ce qu'elles sont normales? Quels sont les mécanismes de transport des différents gaz et des différents composants à l'intérieur du système solaire? On peut toujours ramener ça à une question sur notre propre origine. Je pense que plus fondamentalement, c'est que nous sommes les personnes qui sommes en train d'observer l'univers, et fondamentalement, on se pose des questions qui partent de notre propre constatation que nous sommes au monde, et donc pourquoi? Alors, après, je pense que la recherche est un continuum gigantesque, et à l'intérieur duquel il est peut-être assez difficile de trancher entre, finalement, est-ce plus intéressant, ou plus fondamental, ou plus nécessaire d'aller explorer Europe et de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous cette croûte de glace, ou de faire un télescope, un instrument gravitationnel qui va nous renseigner sur la fusion des trous noirs et l'histoire globale de l'univers. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de moyen de décider entre l'un et l'autre, parce que ce sont des questions fondamentales. On peut les prendre dans un sens comme dans l'autre. On peut dire quelle influence sur ma vie au quotidien, dans les deux cas, zéro. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus philosophique que l'un ou l'autre? Je pense que c'est un débat intéressant, mais c'est un débat qui ne permet pas de conclure. Et quand on regarde comment un programme spatial se constitue, il se constitue de ces débats alimentés par une certaine maturité technologique. Il y a ce qu'on sait faire, il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on a fait pour essayer de respecter, non pas un équilibre, parce qu'on n'équilibre pas vraiment ces choses-là, mais une diversité de l'écosystème de recherche. C'est-à-dire que la recherche est quelque chose qui avance dans des directions pas véritablement planifié. Il y a un moment où on part dans une direction, puis tout à coup on fait la découverte qui génère ces branches, et bien là tout à coup on va vouloir avancer et continuer à avancer, puis ça va se bloquer et c'est une autre branche qui va devenir fertile. Et Europa, on y va, hein. Donc finalement voilà, on saura sans doute bientôt. Ça pose des tas de questions sur comment est-ce qu'on fait pour explorer un monde qui contient peut-être la vie sans l'emporter avec soi. Des questions qui sont techniquement très très intéressantes.
Marc, même si on ne peut pas se conclure, je crois qu'on ne peut pas conclure ce débat, je crois qu'il va falloir quand même le conclure. Je vous remercie tous les quatre pour... pour toutes les informations très précieuses que vous nous avez données.